5. Ils passaient sur des passerelles de lianes, les rapides, portant sur la tête des ballots de gomme encordés. Il y avait ces bancs de bois, comme dans une école où on était assis. Et le monde nous venait contre dans la nuit, par inondation, comme quand, au fond d'une galerie de mine, on crève une poche d'eau avec le pic. Une cloison cédait, la séparation n'est plus. Tout l'espace venait par le trou, on n'avait pas besoin de bouger et d'aller à lui, parce que c'est lui qui venait à vous. Et par ce même trou, les temps d'en arrière venaient, les choses passées étaient présentes, de sorte que le temps, comme l'espace, était nié. On voyait toutes les races d'animaux, on voyait sur les étangs des fleurs plates, grandes comme des tables à la terrasse d'un café. On voyait le crocodile, couché de profil sur un banc de sable, au bord du fleuve, tenir sa gueule grande ouverte, et un petit oiseau entrait dedans. C'était ôté de devant vous. Alors, on a vu Babylone, qui est une ville disparue depuis 2000, 3000 ans, elle et ses tours, ses portes, ses temples, ses dieux, ses rois, ses prêtres, ses soldats, ses courtisanes. Disparue, redevenue sable dans le sable, refaite plate dans la plaine, plus déserte que le désert. Or, voilà que, de nouveau, les soldats montent la garde en haut de ces murs, qui ont recommencé à faire une ombre loin devant eux, comme une chaîne de montagne. Et, la semaine avant Noël, l'affiche a annoncé la vie de Jésus. Alors, à présent, c'était l'étable. C'est ici et, en même temps, c'est l'étable. C'est où nous sommes, sans qu'on ait besoin de bouger. L'étable, la crèche, la paille, de la véritable paille, avec un bœuf et un âne véritable, tandis qu'entre eux est celui qui est né ce soir de nouveau pour nous, qui est né une seconde fois pour nous. On n'osait plus regarder, et moins encore, n'est-ce pas, quand on l'a vu portant sa croix. On l'a vu obligé par le fouet à monter sous le poids affreux le chemin menant au calvaire. Madame Raymondin essayait encore de regarder. On le fouettait, elle ne pouvait plus regarder. Mais on avait beau faire, car voilà qu'à présent l'image vous durait sous le front. La lumière régnait toujours derrière l'os, debout, au-dessus des yeux qu'on tenait fermés. Il sortait de la salle. Il continuait à voir. Il continuait à voir, là, derrière. Il secouait la tête inutilement. Il voyait toujours les trois croix, celle du milieu, une de chaque côté. Quelque chose de froid leur tombait alors sur la peau. Ils ont compris qu'il neigeait. La lampe électrique placée à l'angle de la rue donnait juste assez de lumière pour qu'on pût voir une seconde son halo bleuâtre être rayé de blanc. Puis, elle a été cachée par le passage des chameaux. Ensuite, il vient sur l'annon. C'est qu'il a été écrit. « Ne crains point, fille de Sion, voilà ton roi qui vient monter sur le poulain d'une ânesse. Voilà ton roi qui vient. Puis, tiens, il neige. Henri, il te faut lever ton col. Méfie-toi, tu tousses déjà. » Tandis qu'on étendait devant lui des tapis qu'on avait vite été chercher dans les maisons, des maisons sans toit ni fenêtres, tellement blanches qu'elles font mal aux yeux. Alors, de nouveau, on les baisse. Au café du Petit Paris, ils étaient toujours quelques-uns à venir boire un verre avant de rentrer chez eux. Là aussi, ils parlaient tout haut des choses qu'ils venaient de voir. Le débrouillement encore mal fait, ils mêlaient un peu tout. Ils se mêlaient au monde et ils mêlaient le monde à eux. M. Cortési, le patron, allait d'une table à l'autre, dans ses pantoufles de tapisserie. On tâchait de le renseigner. « Tu vois, lui disait Ernest Chautant, il est assis dans le bout d'une des ailes. Le preneur de vue s'installe sur l'autre. Oui, celui qui photographie, celui qui tourne la manivelle, tu sais bien. Attends, je vais te montrer. » Et, s'approchant du zinc, qui n'était pas tout à fait un zinc, mais plutôt une sorte de comptoir, mi-bois, mi-métal, avec des bouteilles alignées sur le devant et une pompe à bière. « Voilà comme qui dirait les ailes. Eh bien, le parachutiste, mettons que je sois le parachutiste. S'appuyant des deux mains sur le bord du comptoir, il n'eut qu'un saut à faire pour se trouver assis dans le bout, penché en avant. Tout le café regardait. On a entendu Zumbach, le douanier. « C'est ça, ne bouge plus, tu y es !»« Alors, tu comprends ?» disait Chautan au patron. « L'opérateur est juste derrière moi, faisant avec le pouce un geste par-dessus son épaule. Et puis, il y a sur un second avion un second opérateur. Ils me prennent l'un après l'autre. À présent, donc, je vais sauter. « Oh, dit-il, bien sûr, l'appareil est attaché sur son dos, bien sûr, avec des bretelles. » Et tout le café regarde toujours, parce qu'on va le voir sauter. Il se tenait au bout de l'aile, les jambes dans le vide, tout ramassé sur lui-même. Et à présent, ce n'était plus seulement sa tête, mais tout son corps qui surplombait, tandis qu'il tenait les bras légèrement levés en arrière. Il disait à Cortésie, « Attends un petit peu, il faut qu'on prenne le virage. Oh, tu devrais venir voir ça, c'est drôle !» Il regardait droit vers en bas. « On voit en même temps la Loire, la Seine et le Rhône. Regarde-moi ça, Paris et Lyon, c'est des petits ronds, des tout petits ronds. C'est comme des têtes de clous dans une planche, comme quand rien que la tête du clou sort. Et puis Charette, ça balance, il ne faudrait pas avoir le mal de mer. » On le voyait monter et descendre, avec des nuages au-dessous de lui. Tout à coup, il a dit « Attention !» Alors tout le monde ferme les yeux. Tandis qu'il revenait déjà vers vous en riant, ayant sauté, et il disait « On tombe comme ça à pic, 10 mètres, 10 mètres à pic, droit en bas, comme une pierre. Ensuite, tu reçois la secousse, c'est quand l'appareil s'est ouvert. » Et on a recommencé à voir, parce qu'il a dit « Alors tu vas de côté, tu commences à flotter dans les airs, tu es pris par le vent, tu es comme une graine de pissenlit, tu te promènes au-dessus de l'Europe. » Il avait posé son verre et, debout, « À votre santé, tu vois la terre qui remonte, les montagnes repoussent à vue d'œil, comme quand il se fait des gonfles dans la pâte. Ça monte et en même temps, ça se rétrécit, et les bords de la terre se replient vers en bas parce que la terre est ronde. Il y a les carrés des champs. » Dans un coin, Joël était assis. Il se tenait là, sans rien dire. Il se tenait là, sans bouger. Comme sur une carte de géographie, et le bleu qu'il y avait dessus s'en va, comme quand on frotte un vieux tableau où la poussière s'est mise. On voit les chemins, on peut à présent compter les maisons. On reconnaît les animaux à ce qu'ils sont en longueur, et les hommes, c'est seulement un point. Les hommes, c'est seulement le dessus de la tête. Et puis méfie-toi de ne pas accrocher un arbre, ou bien de ne pas mettre en bas les cheminées avec tes pieds. Ah, c'est qu'il faut être aussi un peu acrobate dans le métier. » Qu'il vous expliquait donc, comme s'il eût été le sien, pendant que tout le café écoutait. Pendant qu'il y avait Joël, mais on ne savait pas s'il écoutait, lui, vu qu'il n'avait toujours pas bougé, il n'avait toujours rien dit. Et plusieurs fois encore, dans le courant de l'hiver, il a été là. Puis, on ne l'a plus vu du tout. Il n'est plus venu du tout, pendant longtemps. 6. Ils étaient sortis encore une fois ce soir-là. On était à la fin de mai. Ils marchaient l'un à côté de l'autre, ayant suivi d'abord, comme l'autre fois, le bord du quai, avec, de nouveau, des hommes assis sur le mur, leur tournant le dos. Ils avaient été sous les platanes sans rien se dire, et c'est comme ils sortaient de dessous les platanes. Ils ne lui avaient toujours rien dit. Il s'était seulement penché un peu, il avait passé son bras derrière son dos, à elle. Il avait été chercher sur le côté d'elle, avec sa main gauche, sa main. Il avait pris la main de Suzanne dans la sienne. Il tenait cette main. Il ne lâchait plus cette main. C'est quand le monde, tout à coup, avait été devant eux, et avait éclaté, à ce bout du quai, dans le soir, après qu'ils étaient sortis de dessous les platanes. Et les premières pousses vertes qui s'y montraient étaient comme des touffes d'herbe dans du rocher. Sur la grève, tout de suite après que le quai a pris fin, il y a une place où les femmes viennent faire la lessive. Elles étaient là, debout, dans des cuveaux, d'où la planche descend obliquement, ou à genoux, frottaient le linge sur la planche, tandis qu'ils moussent. Et elles ont les mains toutes moussues de savon. et la planche est toute blanche de mousse de savon, et à l'entour de la planche l'eau aussi est toute couverte de mousse blanche. Ils étaient les deux. Ils tenaient toujours sa main dans la sienne. Ils ont passé près des femmes qui commençaient à plier bagages. Les montagnes étaient roses. Les voiles des petits bateaux de pêche étaient roses. Les deux grandes voiles pointues d'une barque à pierre étaient roses. Ils lui tenaient toujours la main, le bras passé derrière son dos, moins peut-être pour la protéger que pour se sentir protégé. C'était quand le grand monde leur était venu contre. Ils sont allés encore, pendant que les femmes faisaient leurs préparatifs de départ, tordant le linge qu'elles jetaient dans les corbeilles. À une certaine distance du rivage, on voyait, comme l'autre fois, Lugrin qui rentrait dans son bateau avec son aide. Mais il y avait en outre, ce soir-là, toute une bande d'enfants sur la grève, parce qu'ils s'étaient baignés, et quelques-uns pêchaient encore. Des petites filles les regardaient pêcher. Il y avait plus en avant tout un groupe de ces petites filles. Plus en arrière, il y en avait une qui avait un tablier rose et se tenait là toute seule. C'était une petite fille de 8 ou 9 ans, très maigre, très pâle, qui toussait, avec de grands yeux cernés de bleu, dans une peau trop blanche. Et personne ne s'occupait d'elle. Tandis que les garçons, à présent, s'en revenaient, leurs lignes sur l'épaule, tenant à la main, les ouïes passées dans une ficelle, toute une grappe de petits poissons, perchettes, vengerons, sardines. Pieds nus, un petit pantalon de toile, et leur chemise ou un maillot à rayures sans manches, déjà tout brun, les jambes, le cou, la figure, les bras, ils s'en venaient. Il n'y avait que leurs paupières qui étaient blanches dans leur figure, et leurs dents aussi, qu'on voyait, parce qu'ils parlaient très fort. 13, 12, je te dis. Et puis celui que tu as rejeté à l'eau, il ne compte pas? Ça fait 13. Tu m'en dois 13. Pas vrai. Tout à coup, ils se sont tus, ils se sont retournés. Alors, en même temps, on a vu Madame Raymondin sortir avec une autre femme de derrière les peupliers. Et là-bas, au bout de la grève, un homme qui venait, vêtu de blanc, les cheveux longs. On a entendu crier. C'étaient les enfants. Les gamins se sont mis à courir vers l'homme, en criant. Ils criaient « Hé, Jésus ! Hé, Jésus !» On comprenait à présent ce que les enfants criaient. « Hé, Jésus !» Puis « Jésus-Christ ! Jésus-Christ !» sur 3 notes, toujours les mêmes, beaucoup de fois. Puis encore « Hé, Jésus ! Jésus-Christ !» Faisant demi-cercle en avant de celui qui venait, qui continuait à venir, alors peu à peu le demi-cercle reculait. Une pierre est tombée dans le sable, une autre pierre est tombée. Mais l'homme qui venait lève la main à ce moment, et brusquement les cris se sont tus, pendant qu'il s'avançait encore, allant au plus petit des enfants devant lui. Les autres s'étaient sauvés, mais eux avaient eu confiance. Et donc on a vu venir l'homme. L'homme les a pris contre lui. Les peupliers s'étaient tus, les petites vagues s'étaient tues, les cris des enfants s'étaient tus. Il n'y a plus eu d'autre bruit que le grincement des tolets, comme quand des mouettes grincent. C'est Lugrin qui ramait toujours. Ce silence. Et, là-dedans, une voix. Vous voyez ? Madame Raymondin avait posé la main sur l'épaule de la femme qui l'accompagnait, l'attirant à elle, et de l'autre main, vous voyez, montrant l'homme de la main gauche, si c'était lui, mon Dieu, pourtant, si c'était lui. Tout alors s'est tenu arrêté, et Madame Raymondin regardait. Alors, de nouveau, pour elle, tout a été changé. L'eau a été changée. Les montagnes ont été changées, et lui aussi, il a été changé pour elle, étant maintenant pieds nus dans une robe blanche. Car, est-ce qu'il n'est pas écrit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les empêchez point, car le royaume du ciel est à eux et à ceux qui leur ressemblent. on voyait l'Ugrin s'approcher toujours. Comme le bateau se présentait la pointe en avant, l'Ugrin se trouvait vous tourner le dos. Et lui, elle le voit, qui met en avant sur le sable son pied nu, son autre pied nu, il sortait tour à tour de dessous sa robe blanche, ses pieds nus, ses pieds très blancs. Elle a vu, elle, qu'il venait. Il est venu jusqu'à l'endroit où l'eau mouille le sable, faisant au sable clair une bordure gris foncé. Il a mis ses pieds nus dans le sable mouillé. Alors Pierre et André avaient secoué la tête, disant « Non, on n'a rien pris aujourd'hui. » « C'est lui, c'est lui !» N'osant plus regarder, Madame Raymondin se cacha le visage. À ce moment, Suzanne a senti que la main qui tenait la sienne s'était ouverte. Sa main, à elle, qui ne pesait plus rien, s'est remise à avoir un poids. Elle a senti qu'elle a été quittée. La grande montagne rose alors a commencé à s'éteindre. La montagne s'est mise dans de la cendre qui montait toujours plus sur sa belle couleur. Elle n'a pas osé se tourner vers Joël. Elle a seulement senti qu'il s'en allait. Et, pendant ce temps, l'homme s'était avancé jusque sur l'extrême bord de la grève. Là, il s'était mis à parler à l'Ugrin. Il a dit quelque chose à l'Ugrin. L'Ugrin lui a répondu sans se retourner. Après lui avoir simplement jeté un regard par-dessus l'emmanchure de son maillot de coton blanc. Et l'homme, de nouveau, dit quelque chose à l'Ugrin. Mais celui-ci, qui était en train de sortir ses rames de l'eau, alors un collier de perles de verre a pendu après un instant, s'est contenté de hausser les épaules. On voit Joël hausser les épaules, lui aussi. Il a regardé la petite Juliette près de laquelle il venait d'arriver. La petite Juliette n'avait toujours pas bougé, continuant de regarder l'homme. Elle n'a pas vu venir Joël. Il a paru mécontent, il avait l'air fâché. C'est d'une voix dure qu'il lui a dit « Tu viens ?» Elle tressaillit, elle a eu peur. Mais lui, marchant sur elle, pendant qu'elle reculait, « Toi, c'est avec moi que tu viens !» Alors elle a levé les yeux sur lui, puis voilà qu'elle s'était laissée faire, comme les petits enfants, mais, elle, c'était par lui. Et c'est elle, à présent, qu'il avait prise par la main, tandis qu'il s'éloignait déjà avec elle. Suzanne a voulu l'appeler, elle n'avait plus de voix. Les enfants, à ce moment, ont recommencé à crier. Elle cherchait à voir, elle n'arrivait plus à rien voir. Le lac était devenu tout noir en avant des montagnes noires. C'était comme si la nuit était brusquement venue, comme si brusquement on avait changé de saison. Le café du Petit Paris occupe le coin de la rue, de sorte qu'il a vu au sud sur le port, au levant sur le quai qu'il prend en enfilade. Ils étaient trois ou quatre, justement, assis en face d'une des fenêtres, donnant sur le devant. Ils ont très bien pu voir Joël qui arrivait, puis s'était engagé sur une des jetées. C'était, il y avait une bonne heure déjà. Il faisait encore assez clair pour distinguer avec qui il était. Et Ernest, chautant, « Tiens, il a encore changé de métier. Le voilà bonne d'enfant. » En même temps qu'il disait, « C'est la petite Juliette Roy. Dieu sait ce qu'il peut bien faire avec elle. » Car alors on avait vu que Joël s'était assis. Et la petite Juliette s'était assise à côté de lui, sur le bord du mur, du côté du port, au-dessus duquel les deux paires de jambes pendaient, ce qui a amusé Chautant et ses amis, tandis qu'ils continuaient à faire des suppositions. Le bateau à vapeur de 8h30 est arrivé. Il souffle, il siffle, il lâche sa vapeur. Une étoile qui venait de se montrer a été cachée par la fumée. Puis il y a eu le bruit des roues qui vous arrivent sous les pieds, pour vous monter ensuite dans les genoux, où on l'entend. On avait allumé les deux lanternes, marquant l'entrée du port, l'une rouge, l'autre verte. L'étoile, disparue un instant, était reparue. Ils avaient bu un premier litre, ils avaient bu un second litre. C'est à ce moment que Zumbach, le douanier, ayant terminé sa tournée, les avait rejoints. Ils ont regardé de nouveau par la fenêtre. mais, comme on n'y voyait plus bien, c'est à Zumbach qu'ils se sont adressés. « L'as-tu vu ? Est-il toujours là ?»« Bien sûr, » a dit Zumbach, « si c'est de Joël que vous parlez. Il est avec une fillette. » Les plaisanteries ont recommencé. 9h30 sonnèrent d'abord à l'horloge de l'église, puis à la pendule régulateur dans le café. Il n'entra que plus tard, et lui, ce fut seul qu'il entra. C'est avec la solitude qu'il est entré, et a été s'asseoir en sa compagnie à une table à deux places, dont il a occupé l'une et elle occupait l'autre. Il se tint avec la solitude, dans le silence, devant sa chopine, à laquelle il ne toucha pas de longtemps, selon son habitude, étant comme quelqu'un qui dort. Et, aux autres tables, on se l'était montré sans rien dire, par-dessus l'épaule, d'un simple geste du menton. On avait fait ensuite comme s'il n'avait pas été là. Il était comme un qui dort. Sa casquette était tirée bas sur la boîte où il y a le monde, laissant seulement voir les joues où il y avait deux creux d'ombre et qui fuyaient vers la poitrine, tandis qu'il avait les bras posés à plat devant lui. On parlait bas aux autres tables. L'air de la pièce était un air immobile, faute d'assez de force dans les paroles pour l'animer. Bleu de fumée, fade au goût, fade sur les lèvres et dans la bouche, et comme mort entre les quatre murs, malgré la porte ouverte. Mais c'est que dehors aussi, tout était mort. C'était sous nos lampes électriques, devant le vin blanc dans les litres, les demi, les trois décis, les deux décis, vert dans les litres en verre blanc, les chopines en verre blanc, verre dans les petits verres cylindriques. Et, sur les murs, se sont donc tenus de nouveau un moment encore dans des cadres des messieurs à moustaches avec des faux cols évasés. Ce sont les chefs de notre gouvernement, à nous, dont l'un avait les cheveux noirs encore, bien que rares, et séparés à gauche par une raie au-dessus d'un grand front qui était au-dessus d'un lorgnon penchant en avant. Il se trouvait justement occupé le panneau qui était derrière Joël. Mais des pas se sont fait entendre dans la rue comme si plusieurs personnes venaient ensemble. Il ne devait pas être loin d'11 heures. Il y a eu plusieurs voix d'hommes, puis des rires de femmes, pendant que le pavé, après le grand silence où il était demeuré longtemps, recommençait aussi à dire des choses. Toujours au-dessus de Joël, le personnage du portrait continuait à regarder, juste par-dessus le bord de son lorgnon. Lui ne regardait rien. Ni Joël, ni le portrait ne bougeaient. Les nouveaux clients, cependant, venaient d'arriver. C'était une espèce de client qui s'installait plus volontiers à la terrasse, comme le patron savait bien. C'est pourquoi il est sorti. 3 hommes, d'abord, avaient pris place sur la terrasse, et on ne pouvait pas les voir d'où Joël se tenait, ni de la table où étaient Lugrin, Chautant et Zumbach, à cause des stores baissés. Leurs voix seules sont venues d'abord. Elles vous venaient depuis dehors, sous les étoiles. « Tais-toi, tu n'y as rien compris. C'est toi qui n'y as rien compris. » On déplace de nouveau sur la terrasse des chaises de fer, en même temps que c'est une voix de femme qui arrive cette fois, parce qu'un nouveau groupe s'est installé. On a entendu commander de la bière. Et on entendait « Laisse-moi t'expliquer. Tu sais bien quand il emporte la femme sur son cheval, celle qui a un petit col blanc, eh bien, c'est justement la sœur de la vraie. Ce n'est pas la vraie. »« C'est la vraie. Mais non, puisqu'ensuite à l'église, tu sais bien pendant le sermon, pourquoi est-ce qu'il tirait ce coup de revolver ?» On a entendu le coup de revolver. Alors Joël a levé la tête. On a tiré sur la terrasse un nouveau coup de revolver. Une femme a poussé un cri avant d'éclater de rire. Lui se réveille, il semble bien qu'il se réveille. Il est comme un qui se réveille de plus en plus. Voilà qu'à l'intérieur du café on se taisait pour mieux entendre, et les yeux sont allés à cause de ce qui entrait dans différentes directions, au bout de l'une desquelles il y a eu Joël. Et on l'a vu là, qui se réveillait, levant d'abord un peu la tête. « Ah, Charette, tu sais, quand il dégringole dans le ravin, et on voit ses chevaux qui roulent les uns sur les autres. Et puis, quand on scie un arbre au-dessus de celui qui dort. Lui, on le voit qui se réveille. Il avait dormi longtemps le monde. Puis on a bien vu qu'il s'était réveillé. Et en même temps le monde pour lui s'était réveillé. Les choses qu'il avait aimées, puis oubliées. Mais voilà qu'il porte le front en avant. Il y avait comme deux cornes en haut de son front. Alors il a commencé à corner. « Oh, vous !» Il s'arrête. On a bien vu qu'il se réveillait, parce qu'il vous a regardé. Il a regardé tout autour de lui. Puis de nouveau ce front qu'il porte en avant. « Moi, c'est du vrai !» Et voilà qu'il s'est mis, pour la première fois, à parler. Alors on s'est mis à écouter à toutes les tables, tandis qu'il y avait sa table. Il était seul à sa table. « Parce que, a-t-il dit, moi, c'est des vrais voyages. » Ayant été tiré de son sommeil par les faux, il venait avec les vrais. Et de nouveau, « Voulez-vous venir avec moi ? On a déjà été à New York ce soir avec la petite. Je me suis dit que l'air de la mer lui ferait du bien. J'ai demandé à la lingère des premières de la prendre dans sa cabine, parce qu'elle n'avait pas un bien gros bagage. Elle n'est pas bien grosse non plus, mon Dieu. Mais vous, si vous voulez venir aussi, je vous montrerai les machines. » Et ces autres ont été ici un moment encore, puis ils n'ont plus été ici. Ils ont vu qu'on peut tenir 12 dans la tête de la liberté. L'escalier est un escalier tournant qui monte sous sa tunique. Au bout du bras, elle tient un flambeau. Ils ont vu par la porte toute l'eau du port s'éclairer. Pendant ce temps, elle avait froid. Elle roulait autour de ses bras sa jupe. Elle ne savait plus où elle allait. Elle a glissé dans les orties. Elle s'est assise, alors, un moment. Elle se touchait les jambes avec la main. Elle faisait aller sa main le long de ses jambes, comme si elle doutait de sa propre présence. Et pourtant, c'est bien moi qui suis là. On a vu les lumières de la ville s'allumer à une certaine distance du sol, et, au-dessus de l'eau, ces deux lumières qu'on a vues. L'une était verte, l'autre rouge. Elles se sont mises à bouger. Elles se déplaçaient, non fixes, comme si elles pendaient à des fils que le vent aurait balancés. Suzanne regardait ces lumières et elle les voyait s'entourer de rayons à cause de l'eau qu'elle avait dans les yeux. Il s'est passé du temps dont elle n'a pas tenu compte. Il s'est passé beaucoup de temps. Puis, elle s'est effrayée du temps qui avait passé, parce qu'elle aurait pu le retenir encore. Peut-être qu'elle aurait pu du moins lui courir après, le prendre par sa manche, lui passer les bras autour des jambes. Et, à présent, où est-ce qu'il est ? Elle s'est élevée, elle a refait le chemin fait par eux, elle l'a refait toute seule. Oh, comme tout nous quitte vite ! Elle cherche, elle cherche encore, elle ne trouve partout que l'air, et puis que l'air. Elle a suivi le quai d'un bout à l'autre, puis est revenue. Personne. L'une après l'autre, les lumières s'éteignaient. 7. Ce même soir, M. Ravussin, rentrant chez lui après avoir été faire sa partie au cercle, s'étonna grandement de trouver sa femme au salon, et plus encore de la toilette de sa femme, car c'était une robe d'intérieur laissant voir les épaules et les bras par transparence, avec un décolletage en pointe. Elle rit de son air quand il entra. « D'où as-tu ça ? » Leurs grands enfants étaient couchés depuis longtemps, comme c'était généralement aussi son cas à elle, les soirs où M. Ravussin allait au cercle. Alors elle a pensé qu'elle lui devait une explication. « Tu vois, » dit-elle, « je t'avais attendu, je voulais te faire la surprise. » Mais lui, de nouveau, « d'où as-tu ça ?» Parce qu'il était bouleversé de voir qu'elle montrait encore son corps, après qu'elle avait enfanté de lui à 3 reprises, et à son âge. Elle a dit qu'elle avait ça d'une couturière, qu'on lui avait recommandée comme n'étant pas chère, ayant les derniers modèles de Paris. Alors il remarqua que toute espèce de journaux de mode traînait autour d'elle, sur le canapé. Il regarda de nouveau ses bras, ce cou, cette poitrine, toute cette peau qu'on voyait, et sa situation d'homme considéré eut honte en lui et le fit souffrir, pendant qu'il balançait encore entre la colère et l'indulgence. « À quoi penses-tu, ma pauvre Hélène ?» Mais elle riait de nouveau. Il ne la reconnaissait pas. C'est effrayant ce qu'on se laisse vite aller dans ces petites villes, et comme on finit par se négliger, dit-elle. « Il ne te plaît pas, ce peignoir ? Allons, Émile, donne-moi ton avis. » Monsieur Ravussin n'a rien répondu. « C'est comme les rideaux, » avait-elle repris. Et elle montrait les rideaux qui étaient de reps, grenat, avec des franges. Puis, montrant les fauteuils et les chaises couverts d'un vieux velours de même teinte, à clous dorés, « comme les meubles, comme tout ici, mais enfin mieux vaut tard que jamais. Émile, tu vas me vendre quelques-unes de mes actions. Tu sais, l'électricité générale, tu m'as dit qu'elles avaient monté. » Il était en train de se promener de long en large. Il s'est tourné vers elle brusquement, il a haussé les épaules, il est sorti. Seulement, ces émotions-là ne passent pas si vite qu'on pourrait croire. C'est ce qu'on a vu le lendemain matin, quand l'heure fut venue pour M. Ravussin d'aller à son bureau. Il comptait bien s'y rendre directement, comme d'habitude, mais on voit que quelque chose est cassé dans vos habitudes, où il y avait beaucoup de rouages, à cause de quoi, c'est délicat. Il y a eu un autre, M. Ravussin, tandis qu'il s'en allait, les mains derrière le dos, avec sa jaquette, son gilet blanc, son gros ventre, son chapeau de paille. Au lieu de s'arrêter dans le milieu de la rue, comme toujours, et de s'engager à angle droit dans l'allée de la maison où il avait son étude, on l'a vu passer devant la plaque de cuivre portant son nom, sans même tourner la tête. On le saluait, sans qu'il y prît garde. Il a suivi la grand-rue jusqu'au bout. Là, il prit à droite, dans une autre rue qui est beaucoup plus courte, en même temps que beaucoup plus large, et qui mène sur le port. C'était justement la rue où habitaient M. Panser et sa fille Thérèse. M. Ravussin a encore passé sous l'appartement de M. Panser, puis il y avait la fontaine, et tout a continué de changer. La jaquette de Lasting de M. Ravussin a été complètement changée, et, par un mouvement qu'il fait, il y a eu dans la fontaine le soleil qui lui est venu dans les yeux. Le soleil donnant par-dessus les toits coupait en deux le bassin. Il y avait deux parties d'eau de deux couleurs différentes. Et lui, passant à côté du bassin, a été également dans l'une de ces couleurs, puis dans l'autre de ces couleurs. Il change. Sa jaquette s'est mise à briller, de sorte qu'il est devenu un personnage brillant, tout en reflet, une chose vivante, une chose éclairante, sous un chapeau de paille changé. Et de même, plus loin, la pierre grise des platanes, si longtemps insensible au soleil, au beau ciel, aux supplications de l'air, à ses caresses, à ses attouchements. Un de ces platanes a été entre M. Ravussin et le lac, avec sa belle couleur fraîche. La soif vous passait rien qu'à la regarder. Une voile était blanche sur l'eau derrière. Les oiseaux se sont mis à taper avec leurs cris dans l'air tous ensemble, comme sur sa feuille de zinc, un ferblantier. M. Ravussin s'était arrêté. Il avait ôté son chapeau de paille. Il s'est épongé le front. Il voyait l'eau du port bomber en son milieu, se soulever, retomber comme une poitrine de femme. Il respire fortement. C'est tous ces moineaux, y en a-t-il ? Et puis, c'est qu'il y a aussi beaucoup de monde ce matin sur le quai. Qu'est-ce qui se passe ? Une bande d'enfants courait sur le débarcadère. On a vu devant eux un personnage, vêtu de blanc, et eux couraient après ce personnage avec des cris, tandis que l'homme avait les cheveux longs et une barbe. Il venait du côté de M. Ravussin, qui disait de nouveau « Est-ce que je me trompe ?» en même temps qu'il lui semblait voir la pente du lac aller tout entière vers en haut, redescendre. Il y a des femmes qui font la haie le long du chemin que suivait l'homme. Elles disaient tout bas « C'est qu'il est beau quand même !» Elles disaient, se le montrant l'une à l'autre, « Moi, c'est surtout ses yeux. Moi, c'est son front. Moi, c'est comme il tient la tête. » Puis, toutes, elles ont baissé la leur, pendant que l'homme levait la main pour les bénir. Et monsieur Ravussin, qu'est-ce que c'est encore que ça ? Mais alors l'impossible même s'est produit, car il était toujours à la même place, et l'homme s'est trouvé lui faire face. L'homme s'arrête, l'homme s'est arrêté. Il tenait une branche de feuille à la main. Monsieur Ravussin voit cette barbe, ses cheveux, il voit ses yeux qui le regardent, mais il n'a même pas eu le temps de voir ni de constater. Va, prends ce qui t'appartient, vends-le. On le regarde dans les yeux. Donne tout ce que tu possèdes aux pauvres. Après quoi tu pourras revenir, et tes péchés te seront pardonnés. Il dut se secouer d'abord et faire tomber de ses oreilles, comme des tampons d'ouate, ses paroles et le bruit qu'il y avait encore. Il y avait eu encore un grand rire, lui semblait-il. Maintenant, il n'y avait plus ni rire, ni cri, ni voix d'aucune espèce, en même temps que ce visage s'était effacé. Et, en effet, il voit qu'il y a seulement blanc le boulanger qui passe. Les lieux peu à peu revenaient, les choses connues revenaient. Il se secoua de nouveau comme d'un mauvais rêve qu'on a fait, et il se retrouva lui-même, à part que toutefois son inquiétude ne l'avait pas quitté. Comme il s'en retournait, il rencontra M. Pensère qui venait en sens inverse. M. Pensère lui aussi semblait soucieux. Il montrait, sous sa haute casquette noire, bordée de bleu, un mauvais teint gris où sa grosse moustache semblait plus grosse encore. « Qu'est-ce que vous voulez ? » a-t-il dit. « Je n'ai pas d'ordre. » Il a ajouté quelque chose. M. Ravussin a dit « Il vous arrive la même chose qu'à moi. » Et M. Ravussin, « Avez-vous un moment ? Eh bien, allons ensemble parler à ces messieurs. » Ils se mirent en route dans ces petites rues de derrière où l'ombre régnait tout le long du jour et où une petite vie bien ordinaire continuait à se faire. Ils passèrent devant la boutique où Suzanne travaillait. La porte en était ouverte toute grande, sous l'enseigne portant blanchisserie en lettres blanches sur fond bleu. Le bruit des plaques qu'on pose sur le support de fer recommençait ici à être un bruit important, de même que le roucoulement des pigeons quand ils venaient se percher sur la gouttière de la maison d'en face. Et là, Suzanne a raidi encore une fois ses bras bruns sur la poignée de fer recouverte d'un morceau de velours rouge, dans l'air étouffant, étant là, ce matin encore, comme tous les autres matins. On vit passer ces messieurs. Elle raidissait ses beaux bras nus ensemble sur la poignée, au-dessous de laquelle une légère vapeur naissait du linge, comme le brouillard sur les prés. Deux fois déjà, Madame Emery, la patronne, lui avait dit d'aller se reposer, mais elle avait secoué la tête. Alors des bruits de voix étaient venus, passant au-dessus de vous, passant au-dessus des toits sans entrer, passant au-dessus des toits et de la rue. Des voix étaient venues, mais ici, on est comme hors du monde, hors de la vie, et les bruits ne s'arrêtaient pas. Et, de nouveau, la tête lui a tourné à cause de l'extrême chaleur, peut-être. « Alors, Madame Emery, vous allez m'obéir, Suzanne. Montez dans votre chambre et couchez-vous. » Elle a obéi cette fois. Elle avait monté l'escalier menant à sa petite chambre, dont la fenêtre était une fenêtre mansardée et sans vue. Les bruits continuaient à venir. Ils passaient au-dessus du toit, comme quand il y a des vols d'oiseaux de passage, et des troupes d'étourneaux montent vers les vignes ou en descendent. Madame Emery, à l'heure de midi, vint voir comment elle allait, et lui demandait si elle ne voulait pas prendre quelque chose. Elle n'a rien voulu prendre. « Eh bien, c'est ça, » a dit Madame Emery. « Restez tranquille, et ne vous inquiétez de rien. Il n'y a pas tellement d'ouvrage aujourd'hui que je ne puisse faire sans vous. » Elle a continué à se tenir couchée sur son lit non défait, les mains sous la nuque. Et « Pourquoi ?» Puis « Pourquoi ?» Puis encore « Pourquoi ?» Car là était sa maladie. On a senti le soleil venir sur l'autre moitié du toit qu'il a échauffé, communiquant par ce moyen avec vous, bien qu'on soit ici dans l'ombre toute la journée. Si elle allait vers Madame Joël lui parler, mais Madame Joël n'était jamais chez elle à ces heures-ci. Et puis, est-ce qu'elle comprendrait seulement ? Alors, quoi faire ? Quoi faire ? Se disait-elle, et de nouveau, pourquoi ? Pourquoi ? Cherchant toujours une raison à ces choses, et elle ne la trouve pas. Les bruits, à présent, ne viennent plus. elle écoute au dehors la tranquillité de la journée, le temps qui passe, et comment les moineaux avec leurs pattes, dans le chéneau de fer blanc, font comme quand on écrit à la machine, toujours les mêmes petites choses. Et le temps passe ainsi, jusqu'au moment où elle a eu tellement besoin de savoir, quand même, qu'elle s'est levée. Une porte qu'on ferme, des pas sur le trottoir, un bout de conversation entre deux femmes devant une boutique. Elle sort une jambe hors du lit, l'autre jambe. Pendant qu'on parle encore dans la rue tout tranquillement, et on passe. Alors ces deux jambes se sont mises à pendre. Un tonneau vide qu'on fait rouler sur le pavé, ses pieds se posent sur le carreau. Quelqu'un fait marcher un phonographe. La porte de sa chambre qu'elle referme tout doucement a fait taire le phonographe. Tout de suite, ce soir-là, Joël avait pris la petite Juliette par la main, parce qu'elle l'attendait. Elle toussait toujours. Il avait vu qu'il y avait trop de monde sur le quai. C'est pourquoi il l'avait prise par la main et emmenée. Ils allèrent ensemble le long du quai, comme la veille, étant deux comme la veille, mais pas les mêmes que la veille. Joël disait à Juliette, « Tu feras attention de ne pas avoir froid sur le pont. » La chaleur était grande ce soir-là, pendant qu'une odeur de poisson, comme souvent l'été quand l'air est immobile, flottait avec son goût sucré et âcre autour de vous. Il a dit, « C'est la rapidité de l'air, et elle fait que l'air entre partout. Et vois-tu, quand le bateau balance d'arrière en avant, c'est le tangage que ça s'appelle. De droite à gauche, le roulis. » Il disait, « C'est beau ces machines, hein ? Moi j'ai été chauffeur, alors tu comprends, je m'y connais. » Lugrin, ce soir-là, n'avait pas été pêché. Lugrin était sur la grève, où il se tenait à côté d'un de ces bateaux qu'il avait retourné, la quille en l'air, sur deux chevalets. Il venait d'en racler avec soin la peinture, l'ayant déshabillé au couteau de ses vieilles couleurs. Puis, entre quatre pierres, il avait allumé un petit feu, comme chez les sauvages, ayant mis fondre dessus, dans une marmite, de la poix. Ses deux enfants, Georges et André, étaient assis à côté du feu. Le plus grand, de temps en temps, remuait avec un morceau de bois le contenu de la marmite. On voyait les enfants avec leur corps brun, car ils étaient tout nus, dans le sable. Devant eux, montait toute droite, sans bouger, devant le lac, puis la montagne, puis le ciel, une petite fumée bleue. Une petite fumée bleue comme une colonne de verre. Et on voyait le lac, la montagne, le ciel à travers. La fumée ne bougeait pas, les enfants non plus, Lugrin à peine. Ainsi, il n'y a eu aucun bruit, jusqu'au moment où on a entendu le grincement des pierres plates qui frottaient l'une contre l'autre. Lugrin s'était retourné. C'était Joël qui venait, tenant par la main la petite Juliette. Et Lugrin a vu Joël, mais Joël ne l'avait pas vu. Joël n'a pas vu Lugrin. Il n'a dû voir ni le feu, ni le bateau, ni les enfants, ni la grève, ni toutes ces choses, quand il y a encore pourtant la grande belle montagne, et toute l'eau en bas, et tout le ciel dessus. Il s'assit, il fit asseoir Juliette. Ils se trouvèrent ainsi l'un à côté de l'autre, dans le pied du talus, comme une fois déjà, mais pas les mêmes que cette fois-là. Et Lugrin n'a plus compris du tout, qu'en s'étant tourné de nouveau vers eux, il a vu Joël qui ôtait sa veste et en couvrait soigneusement les épaules de la petite. Lugrin a recommencé à enfoncer son étoupe dans les fentes du bordage, l'enduisant ensuite d'un peu de poix fondu qu'il allait prendre dans la marmite, tandis que Joël était assis à côté de la petite. Et Joël disait des choses, les mains sur les genoux. Le feu continuait à brûler. Le plus grand des deux enfants de Lugrin a encore mis dessus un morceau de vieille planche. À mesure que le jour baissait, le feu éclairait davantage. Il devenait plus jaune à mesure que l'eau devenait plus noire, prenant la même couleur que la montagne, qui prenait la même couleur que le ciel. Les enfants qui étaient venus se baigner ou pêcher n'étaient plus là depuis longtemps. « Dis donc, Georges, » a dit Lugrin tout à coup, « tu peux seulement laisser le feu s'éteindre, je n'y vois plus. » En effet, à ce moment, sa femme l'a appelé, Eh, venez manger la soupe !» Il ne se dérangea pourtant pas pour si peu, ni surtout tout de suite, parce que rien ne presse. Et les enfants, s'autorisant de son exemple, n'ont pas bougé non plus. On a recommencé à appeler. Quand elle est arrivée à son tour, le feu n'avait plus de flamme. Seulement la braise prenait toujours plus de force, éclairant en rouge sous son petit peu de cendre à mailles lâches. Quand elle est arrivée à son tour, à peine si on l'a vue venir, parce que la nuit montait depuis par terre tout autour d'elle, comme si elle la faisait monter avec ses pieds. Elle s'est tenue un instant à l'endroit où la pointe de sable s'avance dans le lac. Là, elle a regardé à droite et à gauche, pendant qu'il y avait le feu rouge. Puis il y a eu trois formes noires s'en allant dans la direction de la maison de planches qu'on apercevait un peu plus loin. Une porte s'est fermée. Il n'y avait pas de fenêtre sur ce côté de la maison. La maison avait l'air, dans l'ombre, d'être faite d'ombre, elle aussi. Elle, elle lève à sa main un morceau de nuit. Elle lève à son autre main un morceau de nuit. Elle est venue encore un peu. Elle s'arrête de nouveau. Elle s'avance de nouveau un peu. Elle s'arrête. Elle a fait du bruit parmi les pierres plates qui se déplaçaient sous ses pieds. Il ne pouvait pas ne pas l'entendre. Il ne pouvait pas à présent ne pas la voir, parce qu'elle se tenait entre le lac et lui. Pourtant, il a continué à parler. Et elle a été là, et elle a attendu, toute soumise, toute patiente, dans l'attitude de ne rien demander, et celle seulement d'attendre. D'être là, d'être prête, si par hasard on vous appelle. De nouveau ses mains étaient jointes, et sa tête a penché, sa tête étalée en avant. Il parlait toujours. Finalement, elle n'a pas pu s'empêcher. « Louis !» Tout bas, avec une voix qui sort mal, « C'est moi, Louis !» Voulant dire « Faites-moi seulement une petite place à côté de vous deux, je ne demande rien de plus. » Consentant à tout maintenant, avec sa pauvre petite voix de moins en moins forte, de plus en plus faible, qui n'a plus été qu'un fil dans sa gorge et entre ses lèvres sèches. Puis, elle attend encore, et toujours rien ne vient. Elle est là comme si elle n'était pas là. Elle est dans un lieu où il n'est plus, et, le lieu où il est, elle ne peut pas y être.